Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Cette semaine, les Good Gone sont de retour à la Comédie Odéon après une promenade dans les Trente Glorieuses, retour à la vie présente pour évoquer une fois de plus ce qui nous fait vibrer la culture sous toutes ses formes. Au programme, avec deux L, limace s'il vous plaît, de son pseudo de slam, Camille Martin nous parlera également de jazz avec son groupe Ito, artiste inclassable que Guillaume nous permet de découvrir. Pour suivre, le collectif Les Herbes Folles bien décidé à contourner les codes et nous faire découvrir une pièce inédite d'une femme auteure du XVIIIe siècle, invisibilisée par les hommes qui écrivent l'histoire depuis des siècles. Gaëlle nous parlera des expositions foisonnantes du MAC à voir jusqu'au 10 juillet prochain. Et bien entendu, nous terminerons par nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On se retrouve avec toi sur le plateau, Guillaume, et ton invité, limace, que l'on a hâte de découvrir, tant ses talents sont impressionnants. Ravi de vous avoir tous les deux sur notre plateau cette semaine.
La première fois que j'ai écouté limace, c'était ici même, au Théâtre Comédie Odéon, puisque tu as remporté le prix du jury du tremplin à tout bout de champ. Et moi, pour moi, ça avait été une claque assez phénoménale. Pour une raison peut-être un peu bête, c'est que, je sais plus, comme tu utilisais un sampler et tout ça, il y a eu un problème et voilà. Et en fait, tu avais résolu ce problème sans aucun problème, avec un naturel. Enfin, on a presque l'impression que ça faisait partie du spectacle, quoi. Et je me suis dit, la vache, c'est quand même assez impressionnant, en fait, ce que tu fais. Donc, peut-être te présenter, donc limace, c'est l'anagramme certainement de ton prénom, si je ne m'abuse, mais voilà, de dire d'où tu viens, parce que en fait, tu chantes, tu as une voix, moi je dirais, entre Camille, une autre Camille, celle du fil, et Rosemary Stanley, si tu vois un petit peu l'idée que j'ai derrière la tête, parce qu'il y a ce côté jazzy. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ?
Alors... Bah effectivement, moi je viens du jazz à l'origine, du jazz vocal. C'est ma culture de base. J'ai eu un petit diplôme en conservatoire en jazz vocal, gna gna gna. Et puis un moment est venu où, pour plein de raisons, stylistiquement, humainement aussi, j'ai un peu eu besoin d'aller voir ailleurs du jazz. Il s'est trouvé qu'après l'obtention de mon diplôme, je suis tombée les deux pieds dans les scènes slam de Lyon. Scènes slam organisées à l'époque et encore aujourd'hui par un collectif qui s'appelle les Poètes à la rue, enfin le Cercle des Poètes à la rue. Ça a été une révélation pour moi. C'est, comment dire, moi je viens d'un endroit, j'ai appris une musique qui s'apprend aujourd'hui, en tout cas dans les écoles. Il n'y a pas d'école de slam et l'école, elle est sur les scènes ouvertes. Et ça crée notamment une qualité d'écoute et un respect, une communauté aussi entre artistes qui n'a rien à voir avec celle que j'avais connue dans le jazz. Et je me suis mis donc à écrire des textes de plus en plus et à intégrer de plus en plus dans mes compos ces textes-là. J'ai passé mon diplôme justement avec un groupe qui s'appelle Ito et petit à petit je me suis mis à intégrer justement des textes parlés, du slam en français, parce que Ito c'était en espagnol.
Il y a différentes choses sur internet et il y a un titre qui s'intitule « Tout ça n'est pas grave ». Tu parles de cailloux, alors quels sont les cailloux en ce moment dans tes chaussures ?
Eh, c'est vachement personnel comme question, dis donc c'est peut-être finalement trop personnel d'une certaine manière, sans vouloir vous reprocher la question en aucun cas, mais comment dire, en tant qu'artiste, je m'exprime publiquement, si j'avais envie de raconter précisément quels étaient mes cailloux, je l'aurais déjà fait. Mais oui, c'est plus des choses générales finalement, en fait, ce sentiment d'avoir un espèce de machin qui empêche d'avancer et qui fait mal et qui est toujours là dans un coin de la chaussure. Cette chanson, ça a été, je pense, un doudou un peu pour moi. Je me la chantais vraiment à moi-même au départ, je me chantais juste le refrain, le tout ça c'est pas grave, et puis c'est devenu après coup en fait, après coup quelque chose que j'ai transformé en une vraie chanson que j'ai chantée pour les autres.
Tout à l'heure, tu parlais de la scène slam, mais quand tu es sur scène, tu as un looper, enfin l'instrument qui permet de se sampler.
Tout à
alors,
fait.
Alors comment t'en es venu à justement utiliser cette machine? Alors il y a eu un effet de mode il y a quelques dizaines d'années, il y a beaucoup de gens qui utilisaient ça, c'est repassé de mode. Alors après, il y a l'économie de la musique qui fait qu'il ne faut pas être 150 sur scène, donc c'est compliqué. Mais est-ce que ça vient de là ou est-ce que toi, ça t'a permis une plus grande liberté justement?
Trois des raisons pour lesquelles j'ai fait ça justement que tu viens de dire. Je pense que c'est un peu la mouvance Bobby McFerrin, ces personnes-là, Camille aussi, qui ont utilisé le looper sur scène. Et clairement, ça fait des gens, c'est des gens qui font partie de mes influences. Être seule sur scène, je pense que ça a été aussi une manière de chercher plus d'indépendance, plus avoir géré de l'humain entre d'autres personnes que moi-même et moi-même, ce qui est déjà au quotidien, pas toujours facile finalement. Voilà, juste être seule en scène, c'est un truc qui je pense m'a permis une certaine indépendance et puis une expressivité aussi plus grande, pas faire de la création avec d'autres personnes, avoir un discours, et un propos commun avec d'autres personnes, mais vraiment dire les trucs que j'avais moi besoin de dire. J'ai
l'impression que ce que tu fais, c'est dans l'immédiateté, c'est-à-dire que un concert sera différent d'un concert à l'autre. Donc est-ce que tu es dans l'objectif de faire un disque?
Comment dire, je suis le genre d'artiste qui pense vraiment d'abord live et ensuite, plus tard, CD, enregistrement, EP. Même par ailleurs, j'ai enregistré avec donc Ito déjà un EP. Tout est enregistré en live en fait sur cette EP là. Il y a beaucoup de travail en amont, mais sur le moment c'est pas du piste par piste quoi. Et j'ai encore jamais fait ce truc de faire du re-re, de faire des arrangements spéciaux et tout sur un EP. Et j'ai envie de le faire. Et je vais le faire. Et j'espère que ce sera bien.
Mais alors il faudra des musiciens peut-être.
Peut-être.
Enfin, tu vas chanter, jouer, je sais pas comment faut dire, en fait, un titre avec un petit peu de comment on appelle ça, de la percu corporelle. Donc ça aussi, c'est peut-être compliqué à mettre sur disque.
Ça se fait, j'ai des audios en tête.
Bon, ben on va t'écouter avec plaisir.
Il y a des jours comme ça, où quoi que l'on essaie, il y a comme un caillou qui est coincé là, qui veut pas bouger. Moi, mon caillou me dit, avec une voix méchante, que je suis aussi conne que je suis lente, que pour moi c'est fini. Hey, caillou, ramène pas ta gueule, caillou. Moi, je connais les cailloux. Tout ce que ça fait, c'est que ça caillouta. Tout ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Faut pas prendre la vie au sérieux. Tout ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, t'en chies, demain, ça ira mieux. Sa da 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 hi di di hi. Sa da 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 la da ya. La da 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 hi di di hi. Des jours comme ça, quoi que l'on essaie, il y a comme un caillou qui est coincé là, qui veut pas boucher. Moi, mon caillou me dit, avec une voix méchante, que je suis aussi conne, que je suis lente, que pour moi c'est fini. Hey, caillou. Si tu te sens seul, caillou, je danserai avec toi, caillou. Ça me fera un drôle de mouvement de hanche et ce sera pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Faut pas prendre la vie au sérieux, faut pas. Tout ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, t'en chies, demain, ça ira mieux. Aujourd'hui t'en chies, demain, ça ira mieux.
On se retrouve sur le plateau, effectivement, pour évoquer avec vous le collectif Les Herbes Folles, et bien votre projet. D'abord, j'ai été tout à fait surprise de découvrir finalement que vous vous êtes rencontrés à l'issue d'une conférence. Ce n'est pas tout à fait banal, en fait, de décider de créer un collectif artistique à l'issue d'une conférence. Qui veut nous raconter cette histoire des Herbes Folles ? Guillaume, vous commencez.
Mais cette conférence, c'est les Assises de la transmission théâtrale au prisme de l'égalité femmes-hommes qui est organisée par HF Auvergne-Rhône-Alpes et qui se passe à l'ENSAT. Donc cette conférence, elle a eu lieu en 2019 et elles ont fait venir Aurore Evin qui nous a donc parlé du matrimoine théâtral pré-révolutionnaire et qu'on s'est dit, ah bah très bien, ce sera voilà, le premier axe de notre collectif. Si on travaille sur un texte dit classique, eh ben, on travaillera donc sur un texte du matrimoine.
Une lyonnaise que vous aidez finalement à redécouvrir puisque vous allez monter cette pièce qui est une pièce qui s'appelle La supercherie réciproque qui date de 1768 et que vous allez nous présenter au Théâtre des Marronniers du 7 au 11 mars. Voilà, ça y est, c'était sur de l'autre côté de ma petite feuille. Autrice Françoise Albine Benoît, c'est ça, je le prononce bien. Elle est née à Lyon en 1731. Qui veut nous parler ? Peut-être Léna, la fille du collectif Herbes Folles, qui va peut-être nous parler justement de cette autrice.
D'accord. Alors effectivement, elle est née à Lyon, pas très loin d'ici, à La Martinière. Et ce qu'on peut dire pour résumer sa vie, c'est qu'elle était très subversive. Et elle a été pas mal critiquée lorsqu'elle était à Lyon. Et elle est partie ensuite à Paris. Son mari est mort et c'est ainsi qu'elle est devenue indépendante, puisque veuve. Parce qu'à l'époque...
Presque une chance finalement.
On pourrait le dire comme ça. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle... étant donné qu'à l'époque on avait besoin de l'autorisation du mari pour se faire publier, à partir du moment où elle était veuve, elle n'en avait plus besoin.
Elle a publié sous son nom.
Exactement. Et disons que ça lui a un petit peu servi de leçon de se faire autant critiquer lorsqu'elle était à Lyon, parce qu'après elle a appris à écrire de manière plus subtile. Elle avait une façon d'écrire, disons qu'elle enrobait de moralisme des propos subversifs.
Mais on connaît bien, Molière faisait déjà ça aussi.
C'est ça, exactement. Et pour une femme à l'époque, c'était peut-être une des façons aussi de passer la censure, en fait, de ne pas se faire censurer. Et notamment, on verra ça aussi dans notre pièce, à quel point finalement elle fait tenir au personnage féminin des propos qui sont assez revendicatifs pour l'époque, et comment à la fin, finalement, pour passer la censure, ce personnage féminin redevient moral, on va dire ça comme
Alors,
ça.
Vous avez décidé de monter cette pièce qui s'appelle donc La supercherie réciproque, ça sera au Théâtre des Marronniers du 7 au 11 mars. Et cette pièce, vous avez décidé de la monter en mélangeant finalement les personnages, c'est-à-dire que les personnages masculins ne sont pas forcément joués par des hommes ou des femmes, bref, vous mélangez les codes. Est-ce que Jean Malik, vous voulez nous parler justement de ce mélange des genres,
avec
voire
plaisir.
Même des non-genres du tout?
Oui, complètement. On est trois interprètes pour six personnages. Donc voilà, il y a autant des hommes que des femmes et on a décidé, c'est vraiment un parti pris de départ, de se dire qu'on interpréterait autant des âmes des hommes que des femmes.
Ouais.
Alors après, voilà, on a ajouté quand même des costumes qui permettent d'identifier
les
personnages.
Oui, des accessoires éventuellement.
Voilà. Mais on a tout misé sur le jeu, de sorte à ce que ce soit le texte en premier lieu et le jeu ensuite qui permet d'identifier vraiment
ces
personnages.
Oui, donc pas de décor ou très peu. Voilà, on joue vraiment sur un plateau nu. C'est vraiment votre idée de faire vraiment entendre le texte et uniquement le texte.
Depuis à peu près août 2020, on travaille sur cette pièce.
Oui, parce que ça a été reporté. On ne va pas parler des confinements, c'est des mauvais souvenirs.
Justement, les confinements nous ont un peu profité parce qu'on a eu le temps de travailler et d'essayer d'expérimenter au plateau des endroits de jeu un peu plus subtils, suggérés pour éviter d'aller dans la caricature, le stéréotype, autant des femmes que des hommes. Donc voilà, c'est un petit peu ça aussi qu'on présente.
Comment le public reçoit votre pièce et découvre finalement cette écriture, cette femme, ce parti pris aussi sur le plateau?
En fait, on part plutôt bien, c'est plutôt simple de parler au public parce que c'est une comédie, ça dure 1h15, c'est pas trop long et ça fait du bien à tout le monde, j'ai l'impression de rigoler en ce moment là. Globalement, le public reçoit très bien la pièce, évidemment c'est
comment dire, on fait en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre.
Ouais.
C'est du vieux
français. À partir
français.
De 8 ans, hein, je le précise, hein, vous pouvez y aller avec vos enfants, il n'y a aucun problème.
C'est ça, et en fait, on fait en sorte que le vieux français ne soit pas
Oui, parce que c'est
frein.
En vers. Hein,
alors,
parce que...
c'est pas en... c'est
la prose.
C'est de la prose.
Ouais.
Simplement, c'est... voilà, il y a des mots qui sont parfois un peu compliqués d'accès. Le mot indigence revient à des moments. Ouais. Et donc, nous, on se permet en personnage d'expliquer un petit peu ce que peut vouloir dire ce mot, de le synonymiser, ouais. autrement ouais. dit, pour permettre vraiment à n'importe qui de comprendre la pièce.
Alors tout à l'heure, vous me parliez de la morale. Moi, ça m'intéresse parce que vous avez décidé de réécrire la fin. Alors, vous ne l'avez pas réécrite puisque vous la jouez jusqu'au bout, mais vous avez décidé d'inventer une nouvelle fin. Voilà, d'en rajouter une.
Exactement.
C'est bien ça, Guillaume.
Oui, alors pour aller dans ce sens-là, en fait, c'est pas, on n'enlève rien au texte puisque
oui.
l'idée première,
oui,
c'est de réhabiliter ces textes. Donc, ce serait un peu dommage de les couper et d'enlever la fin
ouais.
et d'y mettre... Donc non, on joue absolument tout le texte. Les seules choses qu'on modifie, c'est des ajouts de notre part et c'est finalement notre patte. Et donc cette fin alternative, on pourrait dire, c'est un petit peu la fin que nous, collectif, on propose, puisqu'effectivement, comme beaucoup d'autres pièces de l'époque, pour passer la censure, il y a une, on va dire, une scène finale où
ouais.
d'un seul coup, oh mon Dieu, tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes et,
ouais.
et tous les problèmes qu'il y avait pendant la pièce se résolvent d'un seul coup. Et donc bah, nous on n'était pas tout à fait d'accord et on trouvait ça un peu dommage de pas proposer autre chose et donc on propose notre fin, mais des ateliers d'écriture avec des jeunes notamment qui peuvent eux aussi proposer leur fin.
Une
à
fin,
eux.
Pourquoi pas, et, effectivement. Voilà. Alors de quoi parle la supercherie réciproque? Quand j'ai lu le titre, j'ai pensé à Marivaux.
Un peu,
avec
ouais,
cette
je
idée
vois,
de
oui.
déguisement, éventuellement de prendre quelqu'un pour un autre, enfin voilà.
Ouais. Le titre est assez évocateur, la supercherie réciproque. C'est vraiment deux menteurs qui se font prendre à leur propre piège. Il y a d'un côté Rosalie qui est
ouais.
une fermière orpheline et de l'autre côté il y a Diapason qui lui est un maître à chanter qui donne des cours de musique à Rosalie. Et l'un comme l'autre vont s'inventer un rang qu'aucun des deux ne possède.
D'accord.
Pour se séduire.
Mmh.
Donc il y a Diapason, il va se faire passer pour un marquis et Rosalie va se faire passer pour la nièce du comte d'Orbach. Et voilà, ce jeu-là, cette supercherie réciproque va donner lieu à plein de quiproquos.
Évidemment. On retrouve finalement un personnage qui est celui de Figaro, de Beaumarchais. Il y a aussi beaucoup d'éléments communs, peut-être, dans cette forme d'écriture, dans cette relation aussi à l'humour, à la notion de séduction, au couple. Enfin, voilà, ce sont des éléments en fait, qui revenaient évidemment à cette époque, hein, qui est une époque de libertinage, quand même, on va le dire.
Dans beaucoup des personnages dits des valets et des servantes, quelque chose de pré-révolutionnaire. Vous le découvrirez aussi dans notre fin alternative, à quel point ces valets-là, ils ont en eux quelque chose de pré-révolutionnaire.
Au Théâtre des Marronniers, du 7 au 11 mars prochain, c'est dans la petite rue des Marronniers, la supercherie réciproque, et c'est le collectif Les Herbes Folles. Un petit mot peut-être.
Oui, il y a une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, en tant que collectif, il y a une chose qui nous paraît aberrante, c'est qu'il n'y ait pas d'autrice de théâtre classique dans les programmes scolaires.
Ouais.
On trouve que c'est une chose qui n'est pas normale, là où on étudie depuis des décennies et des décennies et des décennies ni Molière, toujours la même pièce. Et c'est vrai que c'est une volonté, un souhait pour nous que de pouvoir faire parvenir ces écrits et motiver leur étude, notamment en milieu scolaire.
Il faut faire venir le recteur de l'Académie de Lyon. On va lui envoyer notre interview, je crois. Merci beaucoup,
merci.
En tout cas. Merci. Cette semaine, Gaëlle, tu nous emmènes du côté du musée d'art contemporain.
Exactement, car le MAC Lyon propose 4 nouvelles expositions, dont 2 pour lesquelles j'ai particulièrement eu un coup de cœur. À l'entrée du musée, Crossover. Vous êtes maintenant des habitués de ce dialogue entre un artiste contemporain et un artiste de la collection du MAC Lyon. Pour cette 3e édition de Crossover, vous êtes accueillis par la monumentale sculpture intitulée Steno, qui inaugure le vis-à-vis entre David Postkoller, sculpteur né à Annecy en 87, et la figure majeure de l'art contemporain en termes de vidéo et de sculpture, Bruce Nauman. David Postkoller a choisi Bruce Nauman pour son travail sur le corps, l'espace et le théâtre social. Arrêtez-vous bien devant l'installation sous forme de tente qui contient une tête sculptée. C'est celle du jeune artiste rhône-alpin qui aime se mettre en scène en faisant référence à l'univers circassien et au théâtre qu'il affectionne particulièrement pour générer de nouvelles narrations. La deuxième exposition, consacrée à Tamer Mejri, s'intitule « Jusqu'à ce que s'effondrent mes veines, état d'urgence ». Le MAC Lyon signe la première exposition institutionnelle de cet artiste tunisien. Moment déterminant pour cet artiste, né en 82, qui souligne combien la Tunisie manque de structure artistique, pas de musée ni de centre d'art contemporain. L'espace de Tamer Mejri nous montre combien l'art contemporain n'a pas tué la peinture. Les grands formats exposés sont d'une rare puissance. Des représentations colorées et éclatées vous sautent littéralement aux yeux. Ces peintures sonnent comme un cri où les formes, tout à la fois construites et déconstruites, évoquent les inégalités dans l'organisation sociale, le joug de la religion dans la société tunisienne et la suffocation que génère le pouvoir. Ces œuvres matérialisent l'oppression sous toutes ses formes. Je le cite « J'ai 40 ans, dont 30 ans vécus sous la dictature. Ainsi, ces créations sont inévitablement viscérales. Tamer Mejri nous offre un grand et puissant cri de peinture. » Puis, coup de cœur pour l'exposition conçue avec des étudiants de l'Université Lyon 3, intitulée « Little Odyssey », cette sélection d'œuvres de la collection du MAC Lyon a été pensée à destination des familles et à hauteur d'enfants. Accessible, ludique et pédagogique, c'est véritablement l'exposition qui réconciliera les réfractaires de l'art contemporain, enfants comme adultes aussi. Et, je l'espère, Little Odyssey inaugurera un grand cheminement vers l'art de notre époque. Chaque espace s'organise autour d'un format participatif. Avec Daniel Konogar, vous allez travailler vos perceptions et sensations. Ettore Spalletti va vous plonger dans une peinture sculpture bleue posée à même le sol. Larry Bell vous intégrera à l'œuvre par des jeux de miroirs. Erwin Wurm fera de vous une sculpture vivante. Dominique Blaise perturbera l'ordre spatial. Soyez attentifs, l'installation intitulée « Le couvert » de Dominique Blaise comprend une table fixée au plafond par les pieds. Magie ? Non. Je vous laisse découvrir les coulisses sans trucage de cette œuvre en allant visiter l'exposition. Encore un grand bravo aux étudiants de l'Université Lyon 3 pour leur sélection, la scénographie et leur médiation si participative. Allez, citons un dernier artiste pour parfaire le voyage de l'exposition Little Odyssey. J'ai nommé Ange Lessia et son œuvre Arrangement. Cet artiste préfère le terme d'arrangement à celui d'installation pour montrer le caractère non définitif du dispositif. Vous allez déambuler autour de map-monde d'où émanent chaleur et lumière. Cette déambulation peut être quasiment infinie car le MAC Lyon possède dans sa collection 350 globes terrestres au total. Un voyage où prolifère la géographie et à hauteur d'enfant, poétique et magique. Pour finir, gros coup de cœur pour l'artiste sud-africaine Marie Sibande et son œuvre monumentale, La ventriloque rouge. Marie Sibande explore les représentations stéréotypées de la femme et la question de l'identité dans la société sud-africaine. Elle a créé un personnage, Sophie, qui, inspirée de son histoire personnelle, interroge l'archétype de la domestique noire pendant l'apartheid. Sophie, pourquoi ce prénom ? Car les domestiques étaient souvent appelés Sophie. Marie Sibande, qui a représenté l'Afrique du Sud lors de la 54e Biennale de Venise en 2011, fait partie des artistes africaines à suivre vivement. Son exposition au MAC Lyon est née d'une admiration commune de la directrice du musée, Isabelle Bertolotti, et du commissaire d'exposition, Mathieu Lelièvre. Un ventriloque est quelqu'un qui parle à travers vous. Mais pour Marie Sibande, c'est aussi une occasion de prêter sa voix à ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi elle crée Sophie sur son propre corps dans son installation. Elle est la domestique Sophie, la voix off est également la sienne. La plasticienne souligne combien le Covid a impacté les « day jobbing », ces travailleurs précaires, car à la journée en Afrique du Sud. Le fil conducteur de la démarche artistique de Marie Sibande est la colère. Pour la ressentir physiquement, asseyez-vous dans son installation montée sous la forme d'un amphithéâtre. Sophie et vous-même êtes encerclés de chiens rouges aux aguets, menaçants. On croirait presque les entendre grogner. Nous sommes dans un musée, ce sont donc des sculptures. Mais le sentiment de peur est plus que prégnant. Ces quatre expositions sont à voir jusqu'au 10 juillet 2022. plus d'informations sur mac-lyon.com.
Merci Gaëlle. Comme toujours, ça donne envie de découvrir ces diverses artistes parce que là, pour le coup, il y a une pléiade et des propositions plastiques extrêmement diverses les unes des autres. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment la politique du MAC depuis quelques années, enfin quelques mois, que Isabelle Bertolucci est aux commandes. Donc on va aller découvrir tout ça. Merci beaucoup Gaëlle. On se retrouve sur le plateau pour terminer notre émission, Guillaume, comme d'habitude, avec nos Gédéons. Alors, cette semaine, qu'est-ce que tu nous préconises pour terminer cette émission ?
Alors, cette semaine, exceptionnellement, je ne vais pas parler de musique, ni de... donc je n'ai pas amené de disque, mais j'ai amené une nouvelle collection, une petite collection qui ne coûte pas cher, 4,50€. C'est Libelle au Seuil. C'est une toute nouvelle collection qui est une sorte de collection, pas concurrente, mais à celle de chez Gallimard, les Tracts, voilà, ouais, que vous connaissez. Donc, c'est très peu cher. Et c'est des petits livres d'une cinquantaine de pages et qui sont très politiques. Alors aujourd'hui, au jour où on nous confisque les débats politiques,
bah, puisque
il
n'y
a pas de débat concernant les présidentielles, et bien ces petits livres ont pour objectif justement d'éveiller un peu les consciences. Alors évidemment, faut y aller, faut les acheter, faut les lire. C'est moins facile que BFM, c'est sûr, mais voilà, c'est très intéressant. Et notamment, je peux quand même citer les titres. Donc il y a un Thomas Piketty qui s'intitule Mesurer le racisme, vaincre les discriminations. Il y a effectivement un livre de Julia Cagé pour une télé libre contre Bolloré, donc c'est vraiment l'actualité, donc c'est vraiment que de l'actualité. Et puis moi je viens de terminer celui-ci qui est absolument extraordinaire, de Ludivine Bantini, qui est une historienne, qui s'intitule L'ensauvagement du capital. Et alors c'est pas des bouquins qui vous donnent la pêche, parce que voilà,
on voit bien que notre monde
on est
va
dans
pas
un
bien.
Monde qui va pas vraiment bien, voilà, mais au moins c'est bien qu'il y ait des gens qui un petit peu réfléchissent et fassent réfléchir autrui. Et voilà. Et je trouve qu'avec la collection Trac de Gallimard, bon, on connaît peut-être celui sur Zemmour, là, sur les historiens, voilà, qui dénoncent un petit peu toutes les bêtises que dit Éric Zemmour du point de vue historique. Et bien, je trouve que celle-ci, elle fait le pendant, donc chez Le Seuil. Donc voilà, c'est des petits ouvrages à 4,50€. Alors, leur slogan, je le découvre, j'avais oublié de retourner le livre, alerter, informer, questionner. Donc voilà, je pense que
tout est dit.
C'est assez essentiel en ce moment. Donc, voilà.
Effectivement, les couvertures sont assez belles et assez attrayantes. Très simple, très sobre. On retrouve la presse écrite, hein, avec quelque chose d'assez précis, avec le chapeau qui est sur la première de couverture. Gaëlle, cette semaine, de quoi nous parles-tu ? Je crois que tu nous emmènes à Bron cette semaine.
Alors, mon Gédéon de la semaine soulève la question suivante. Qu'est-ce que risquer sa vie ? Qu'est-ce que prendre le risque de vivre vraiment ? Des éléments de réponse existent. Vous avez 5 jours du 8 au 13 mars pour affiner la vôtre en allant à la Fête du Livre de Bron, le festival consacré à la littérature contemporaine, romans, poésie, essais, BD, pièces de théâtre et littérature jeunesse. Intitulé « Courir le risque », l'édition 2022 de la Fête du Livre de Bron fait référence à un essai, « L'éloge du risque », de la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmentel, paru aux éditions Payot et Rivage. Venez prendre ce risque en rencontrant les 70 invités français et internationaux, écrivains confirmés et émergents, programmés lors de tables rondes, rencontres, ateliers, dialogues d'auteurs, grands entretiens, masterclass, projections et en déambulant dans l'espace librairie, véritable cœur battant du festival avec une dizaine de libraires indépendants de Lyon et de la région. Je vous laisse le soin de découvrir tous les invités et la programmation sur le site de la Fête du Livre de Bron, mais souhaitais nommer qui va clôturer le festival. C'est Claire Marin avec son essai « Être à sa place » aux éditions L'Observatoire. Car courir le risque marque aussi le cheminement de la quête de sa place. L'entrée à la Fête du Livre de Bron est libre. Arrivez toutefois à l'hippodrome une demi-heure avant les rendez-vous afin d'avoir un ticket vous assurant une place. Plus d'informations sur fetedulivredebron.com.
Merci Gaëlle. En effet, c'est un bel événement. Je peux en témoigner. Moi, je vais
terminer, effectivement, en vous parlant des galeries Françoise Besson, 10 rues de Crimée et 6 rues de Vauzelles, dans le premier arrondissement, avec les deux expositions qu'elle propose en ce moment. C'est la dernière semaine pour découvrir Réparer le monde. Tu parlais d'un monde qui va pas très bien. Bah oui, effectivement, même les artistes plasticiennes essaient de réparer le monde comme elles le peuvent. Et son travail est vraiment très intéressant. Elle allie la couture, les matériaux de récupération. Bref, c'est vraiment à découvrir et vous avez encore une petite semaine pour ça. Et puis, l'expo qui débute, c'est Être cher. Alors, être cher en un seul mot, tu vois. Être cher avec les œuvres de Blanche Bertelier, Ghislain Bonin, Olivier Fischer, visible jusqu'au 7 mai prochain. Alors pourquoi parler spécialement en fait de cette galeriste ? Bah, tout simplement parce que c'est un travail de galeriste remarquable depuis des années et une très belle personne, sensible, engagée. Deux raisons pour oser pousser la porte de ces deux galeries et découvrir des artistes de talent sincères à l'expression puissante. On termine pour aujourd'hui et merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur lyondemain.fr.